L'encyclopédie, article guerre. Guerre, différent entre des princes ou des États qui se décident par la force ou par la voie des armes. C'est là à peu près la définition de Grotius qui dit que la guerre est l'état de ceux qui tâchent de vider leurs différends par la voie de la force. Suivant Montecuculli, la guerre est une action d'armée qui se choque en toutes sortes de manières et dont la fin est la victoire. Cette définition n'est pas absolument exacte parce que lorsqu'un État puissant en attaque un plus faible, le but de la guerre dans le dernier n'est pas tant de remporter la victoire sur l'agresseur que de s'opposer à ses desseins. Quoi qu'il en soit, l'idée de la guerre est trop commune et ses effets trop connus pour s'arrêter à l'expliquer plus particulièrement. Comme les princes n'ont point le tribunal sur terre qui puisse juger de leurs différends et de leurs prétentions, c'est la guerre ou la force qui peut seule en décider et qui en décide ordinairement. Nous n'entrerons dans aucun détail sur les différentes circonstances qui rendent les guerres justes ou injustes. Nous renvoyons pour ce sujet au savant traité de Grotius De Iure Belli ac Pacis. Nous donnerons seulement une légère idée de la guerre offensive et de la guerre défensive. Elles peuvent se diviser chacune en guerre de campagne et en guerre des sièges. La guerre offensive est celle dans laquelle on se propose d'attaquer l'ennemi. Dans la défensive, on a pour principal objet de résister aux efforts de l'ennemi et de l'empêcher de faire des conquêtes. Et la guerre de campagne est celle qui se fait entre deux armées opposées. À l'égard de celle des sièges, elle consiste dans l'attaque et dans la défense des places. Avant que d'entrer dans quelques détails sur ce sujet, observons d'abord que la guerre est un art qui a ses règles et ses principes, et par conséquent sa théorie et sa pratique. Tous les arts et tous les métiers se perfectionnent par l'exercice. Si cette maxime a lieu dans les plus petites choses, à plus forte raison dans les plus importantes. Or, qui doute que l'art de la guerre ne soit le plus grand des tous? C'est par lui que la liberté se conserve, que les dignités se perpétuent, que les provinces et l'empire se maintiennent. C'est cet art auquel les Lacédémoniens, autrefois ensuite les Romains, sacrifièrent toutes les autres sciences. C'est l'art de ménager la vie des combattants et de remporter l'avantage. Végès, traduction de M. Sigret. L'étude d'un art si important doit, selon M. de Folard, faire la principale occupation des princes et des grands. Rien de plus brillant que la carrière d'un général qui fait servir sa science, son zèle et son courage au service du prince et de la patrie. Quel est l'art, dit cet auteur, qui égale un particulier à son souverain, qui le rend dépositaire de toute sa puissance, de toute la gloire et de toute la fortune des États. La guerre seule a cet avantage. Peut-il être un actif plus noble et plus intéressant pour chercher à s'y distinguer? Les règles ou les principes de la guerre qui en forment la théorie ne sont autre chose que le fruit des observations faites en différents temps pour faire combattre les hommes le plus avantageusement qu'il est possible. Thucydide remarque que la fameuse guerre du Péloponnèse servit à augmenter l'expérience des Grecs dans l'art militaire, parce que, comme cette guerre fut souvent interrompue et recommencée, chacun s'appliquait à rectifier les fautes qui avaient été remarquées dans les campagnes précédentes. La première idée qu'on a dû avoir lorsqu'on a formé des hommes pour combattre a sans doute été de les armer pour agir offensivement contre l'ennemi. Les premières armes furent d'abord fort simples. C'étaient de gros bâtons ou des espèces de massues ou casse-têtes ainsi qu'on entend encore aujourd'hui les sauvages. On dut aussi se servir de pierres qu'on jetait de loin avec la main, mais on retrouva bientôt l'invention de la fronde pour les jeter de plus loin et avec plus de force. Il y a apparence qu'on songea ensuite à armer les bâtons d'un fer pointu, qu'on trouva bientôt après l'invention des épées ou des sabres, et qu'à l'imitation des pierres qu'on lançait avec la fronde, on imagina l'arc pour lancer également des flèches, car toutes ces armes sont de la plus haute antiquité. Après avoir armé les combattants, il fut aisé de s'apercevoir qu'en les faisant agir en foule et sans ordre, ils ne pouvaient se servir de leurs armes et qu'ils s'embarrasseraient réciproquement. Pour remédier à cet inconvénient, on les forma sur des lignes droites et l'on mit plusieurs de ces lignes les unes derrière les autres pour en augmenter la force. Après avoir armé les troupes et leur avoir donné l'arrangement précédent, il fallut leur apprendre à se servir de leurs armes et à se mouvoir en ordre de tous les sens. C'est-à-dire qu'il fallut leur apprendre l'exercice ou le maniement des armes et les évolutions. Les hommes, en faisant usage de leurs armes contre l'ennemi, cherchèrent à se couvrir ou à se garantir de l'effet des siennes. Pour cet effet, on imagina les armes défensives, telles que les casques, cuirasses, boucliers, etc. Les troupes étant armées ou exercées, il fallut les diviser en plusieurs corps, propres à agir et à se mouvoir facilement. De là l'origine des compagnies, des cohortes, des régiments, des bataillons, etc. On songea aussi à ranger ces différents corps entre eux, comme les troupes le sont dans leurs corps particuliers, et l'on forma les ordres de bataille sur deux ou trois lignes de troupes. On ne s'avisa vraisemblablement pas dans les premiers temps de faire combattre les hommes à cheval. Mais il fut aisé de s'apercevoir bientôt du besoin de la cavalerie pour poursuivre l'ennemi, le disperser après sa défaite et l'empêcher de se rallier. Il y a apparence que la cavalerie fut d'abord destinée à cet effet et que ne consistait guère qu'en troupes légères. Mais on vit ensuite que cette cavalerie pourrait encore en d'autres services, qu'elle était propre en pleine à combattre l'ennemi, et que d'ailleurs, par la rapidité de ses mouvements, elle pouvait se transporter bientôt d'un lieu en un autre et se tirer du danger bien plus promptement que l'infanterie. On forma donc des corps de cavalerie plus ou moins nombreux, suivant la nature des peuples et des pays où l'on faisait la guerre. La cavalerie pouvant harceler l'infanterie en campagne et essayer de la défaire sans crainte de se compromettre par la facilité qu'elle a de se retirer, on imagina des armes de longueur pour la tenir en respect, c'est-à-dire qu'on inventa les saris ou les piques, dont la longueur empêchait le cheval du cavalier de tomber sur le fantassin. Par là, l'infanterie vit paraître en pleine devant la cavalerie et la combattre même avec avantage. Mais la cavalerie fut toujours jugée nécessaire dans les armées pour soutenir et fortifier l'infanterie dans les lieux ouverts, donner des nouvelles de l'ennemi, le poursuivre après sa défaite, etc. Il est vraisemblable que les différentes choses dont on vient de parler occupèrent d'abord les nations guerrières et que la fortification doit aussi son origine aux premières entreprises des puissances qui voulait s'assujettir les autres. D'abord, dit le comte de Pagan dans son traité de fortification, les campagnes étaient les plus agréables demeures. L'assurance des particuliers consistait en l'innocence de tous, et les vertus et les vices n'admettaient point encore de différence parmi les hommes. Mais lorsque l'avarice et l'ambition donnèrent lieu au commandement et aux conquêtes, la faiblesse cédant à la force, l'oppression suivit les vaincus. Les moins puissants se réunirent ensemble dans le même lieu pour être plus en état de se défendre. De là, l'origine des villes. On s'appliqua à les entourer d'une enceinte capable d'enfermer l'entrée à l'ennemi. Cette enceinte fut d'abord de simples palissades, puis des murs entourés de fossés. On y ajouta ensuite des tours. À mesure que la fortification se perfectionnait, l'ennemi inventait différentes machines propres à en détruire les ouvrages. Tels furent le bélier et les autres machines de guerre des anciens. Ces machines ont été en usage jusqu'à l'invention de la poudre, qui donna lieu d'imaginer le canon, le mortier, les arquebuses, les mousquets, les fusils et nos autres armes à feu. L'invention ou la découverte de la poudre à canon, qui a donné lieu de changer l'ancienne fortification, n'a pas introduit beaucoup de nouveautés dans les armes offensives du soldat. Le fusil répond assez exactement aux armes de jet des anciens, mais les armes défensives ont été abandonnées insensiblement dans l'infanterie, à cause de la difficulté d'en avoir d'assez fortes pour résister à la violence du fusil. La cavalerie a seulement des plastrons ou des devants de cuirasse, et les officiers des cuirasses entières, que les règlements les obligent de porter. Dans les commencements où les armées s'éloignaient peu de leur demeure ordinaire, où elles étaient peu de jours en campagne, les troupes pouvaient rester sans inconvénient, exposées aux injures de l'air. Mais lorsqu'on voulut leur faire tenir la campagne plus longtemps, on imagina de leur donner des tentes ou des espèces de maisons de toile que les soldats pouvaient porter avec eux. On forma alors des camps et l'on fit camper les armées. On pensa aussi alors à fortifier ces camps pour les mettre à l'abri des surprises de l'ennemi, faire reposer les troupes plus tranquillement et diminuer le grand nombre de gardes qu'il aurait fallu pour la sûreté du camp. Toutes les différentes choses dont nous venons de parler se sont insensiblement établies par l'usage parmi toutes les nations policées. Celles qui ont donné le plus d'attention et qui les ont portées au plus grand point de perfection ont toujours eu un avantage considérable sur celles qui les avaient plus négligées. Ce n'est pas le grand nombre qui décide des succès de la guerre, mais l'habileté des chefs et la bonté des troupes disciplinées avec soin et formées dans tous les exercices et les manœuvres militaires. De là vient que les Grecs, auxquels on est particulièrement redevable des progrès de l'art militaire, avaient trouvé le moyen, avec de petites armées, de vaincre les nombreuses armées des Perses. Rien de plus admirable que la fameuse retraite des 10 000 de Xénophon. Ces Grecs, quoique en petit nombre, au milieu de l'empire des Perses, ayant près de 800 lieues à faire pour se retirer, ne purent être entamés par l'effort d'Artaxerxès. Ils surmontèrent par leur courage et par l'habileté de leur chef tous les obstacles qui s'opposaient à leur retour. Quelque utile que soit l'exercice et la discipline pour former de bonnes troupes, l'art de la guerre ne consiste pas uniquement dans cet objet. Ce n'est qu'un moyen de parvenir plus sûrement à réussir dans ces entreprises. Ce qui appartient essentiellement à l'art de la guerre et qui le caractérise, c'est l'art de savoir employer les troupes pour leur faire exécuter tout ce qui peut réduire l'ennemi plus promptement et le forcer à faire la paix. Car la guerre est un état violent qui ne peut durer, et on ne doit la faire que pour se procurer la jouissance des douceurs et des avantages de la paix. Il est facile, avec de la bonne volonté, de l'application et un peu de discernement, de se mettre au fait de toutes les règles ordinaires de la guerre et de savoir les différentes manœuvres des troupes. Mais le génie de la guerre ne peut se donner ni s'acquérir par l'étude. Elle peut seulement le perfectionner. On peut appliquer à l'art de la guerre ce que l'Horace français dit du jeu d'échecs comparé à l'art de faire des vers. Savoir la marche est chose très unie, Jouer le jeu, c'est le fruit du génie. Je dis le fruit du génie achevé par longue étude et travail cultivé. Savoir toutes les manœuvres de la guerre, tout ce qui concerne l'ordre, la disposition et l'arrangement des troupes, tout cela, quoique très utile en soi et absolument nécessaire au général, est chose très unie. Mais faire la guerre avec succès, rompre les desseins de l'ennemi, trouver le moyen d'éluder sa supériorité, faire des entreprises continuellement sur lui sans qu'il puisse s'y opposer, c'est là le véritable fruit du génie, et du génie achevé par longue étude et travail cultivé. Si un homme, dit le maréchal de Saxe, n'est pas né avec les talents de la guerre et que ses talents ne soient perfectionnés, il ne sera jamais qu'un général médiocre. L'application rectifie les idées, mais elle ne donne jamais l'arme. C'est l'ouvrage de la nature. Mais quel avantage qu'on en ait reçu si on ne cultive pas ses talents par l'étude et la méditation. Il ne faut pas espérer, dit M. de Folard, que Dieu nous accorde la science de la guerre par infusion. Cependant, à voir, dit-il, le peu d'application que chacun apporte à s'y rendre capable, on croirait assez qu'elle s'apprend en un jour, et que cette lumière d'ordre, de ruse, d'artifice, poussant bien démêlée, de profondeur dans la conduite des guerres les plus difficiles, de prévoyance et de précaution qui nous éclaire, qui ne se perd ni ne s'éteint point dans les dangers les plus imminents, naît avec nous, et que nous sommes de ces génies extraordinaires que la Providence se plaît quelquefois faire paraître dans le monde, et de loin pour sauver ou renverser les monarchies. On a vu dans l'article Études militaires quelles sont les différentes connaissances qui servent de base au grand art de la guerre. Lorsqu'on est parvenu à se les rendre propres, il faut chercher dans les livres les règles et les principes de cet art important. Ce n'est pas, dit M. de Folard sur ce sujet, dans la moyenne antiquité qu'il faut aller chercher nos maîtres, c'est chez les Grecs et les Romains, lorsque ces peuples étaient dans leur force et que leur discipline militaire, ou pour mieux dire la science de la guerre, qui renferme tout, avait été portée au plus haut point de perfection où ces grands hommes avaient pu la porter. C'est surtout chez les Grecs qu'il faut les chercher. Ce sont eux qui, d'une routine, car la guerre n'était autre chose d'abord, posèrent des principes certains et assurés. Il y eut alors des maîtres, des professeurs pour l'enseigner, et l'expérience ne fut plus nécessaire pour former d'excellents officiers et des généraux d'armée. Elle ne servait que pour les perfectionner, comme Thucydide, Xénophon et Plutarque nous l'assurent. Comme l'étude de la guerre demande du temps, du travail et de l'application, il se trouve bien des gens qui, pour en éluder les difficultés, prétendent que cette étude n'est point nécessaire et que la pratique peut seule apprendre l'art de la guerre. Mais s'il était vrai, dit le savant auteur que nous venons de citer, que la guerre ne roula que sur l'expérience, un royaume, par exemple, comme la France, approcherait de sa décadence selon le plus ou moins de temps qui se maintiendrait en paix, et 10 ou 12 années de repos ou d'inaction ne seraient plus ruineuses que 15 ou 20 années d'une guerre continuelle. Et que l'on considère, dit toujours cet auteur, 15 ou 20 ans de service sur la tête d'un vieux officier qui ne connaît que son expérience et sa routine, et qui se reposant 20 autres dans la paix, oublie ce qu'il a appris dans la guerre. Car qui peut disconvenir que l'expérience ne se perde et ne s'oublie par le défaut d'exercice? Les officiers généraux affaiblis par leur âge ou abâtardis par une longue paix, la noblesse amollie et devenue paresseuse sans aucun soin des armes, se livrent à toutes sortes de débauches, et les soldats, à leur imitation, n'observe pas certaines disciplines qui peuvent suppléer aux défauts de la science de la guerre. Tous ceux qui tiennent pour l'expérience conviennent qu'il n'y a rien à faire si elle est tentée sur la prudence militaire. Et cette prudence est autre chose que la science qui nous fait voir les toutes qui sont capables de nous conduire où nous tendons. Tel qui a donné bataille dans un pays de plaine se trouve embarrassé dans un terrain inégal. Il est encore plus dans un pays fourré. Il en donnera 50 toutes différentes les unes des autres, par les différentes situations des lieux qui ne se ressemblent jamais. Souvent les deux champs de bataille différent l'un de l'autre, et ce qui n'est pas un petit embarras entre deux généraux. Et soit qu'on attaque ou qu'on soit attaqué, il y a 1000 changements, 1000 mouvements à faire, très dangereux et très délicats, soit dans le commencement ou dans les suites d'un combat, sans compter le fort ou le faible d'une armée sur l'autre, qui peut être mis en considération, c'est-à-dire le plus ou moins de cavalerie ou d'infanterie, le bon ou le mauvais de l'une et de l'autre. Et comment tirer de l'expérience ce que l'on n'a jamais vu ni pratiqué, et les autres choses qui n'en dépendent pas? À toutes ces réflexions de M. de Follard et à beaucoup d'autres sur la nécessité de la science militaire qu'on trouve en différents endroits de son commentaire sur Polybe, on peut ajouter que s'il faut qu'un officier voie exécuter tout ce qu'il a besoin d'apprendre, il lui sera presque impossible de se rendre habile dans les différents mouvements des armées, que lorsqu'il est employé à la guerre, il ne voit que la manœuvre particulière de la troupe à laquelle il est attaché, et non pas les mouvements des autres troupes qui sont quelquefois tout différents. Mais supposant qu'il puisse observer quelques dispositions particulières dans les autres troupes, comment pourra-t-il en deviner la cause s'il ignore les principes qui peuvent servir à la dévoiler? Il arrive de là, comme l'expérience le démontre, que bien des officiers qui ont servi longtemps et qui même se sont trouvés à de grands mouvements de troupes ignorent la science de ces mouvements et qu'ils ne pourraient ni les commander ni les faire exécuter. Leur expérience leur apprend seulement des petits détails de l'exercice et du service particulier qu'on trouve partout, et qu'il est impossible d'ignorer parce qu'on s'est chargé de la faire exécuter journellement. Mais cette partie de la police militaire, quoiqu'elle soit utile en elle-même, et qu'elle fasse honneur à l'officier qui l'a fait observer avec le plus de soin, ne forme pas la science militaire. Elle en renferme tout au plus que les premiers rudiments. L'étude de l'art de la guerre peut tenir lieu d'expérience, mais d'une expérience de tous les siècles. On peut appliquer à cette étude ce que Diodore de Sicile dit de l'histoire, si utile à tous les hommes et principalement à ceux qui veulent posséder la science de la guerre. C'est un bonheur, dit cet auteur, de pouvoir se conduire et se redresser par les erreurs et par les chutes des autres, et d'avoir pour guide dans les hasards de la vie et dans l'incertitude des succès, non une recherche tremblante de l'avenir, mais une connaissance certaine du passé. Si quelques années de plus font préférer dans les conseils les vieillards aux jeunes gens, quelle estime devons-nous faire de l'histoire qui nous apporte l'expérience de tant de siècles? En effet, elle supplée à l'âge qui manque aux jeunes gens, et elle étend de beaucoup l'âge même des vieillards. C'est ainsi que ceux qui ont étudié avec soin l'histoire des différentes guerres des nations, qui ont examiné, discuté tout ce qui s'y est observé dans la conduite des armées et des différentes entreprises militaires, peuvent acquérir par là une expérience qui ne peut être comparée avec la pratique de quelques campagnes. Et comme peu de personnes sont en état de faire une étude aussi étendue de l'art de la guerre, il est à propos d'indiquer les principaux ouvrages qui peuvent servir à donner les connaissances les plus nécessaires sur la théorie de cet art. Nous avons déjà vu que M. Follard veut qu'on consulte les Grecs et les Romains. C'est chez eux qu'il faut chercher les vrais principes de l'art militaire. Mais le nombre de leurs auteurs sur ce sujet n'est pas considérable. Il y en avait autrefois une infinité, dit M. de Folard dans la préface que nous avons déjà citée. Mais tout cela s'est perdu par les malheurs et la barbarie des temps. L'histoire nous a conservé les titres de quelques-uns de ses livres et les noms de quelques auteurs qui avaient écrit de la guerre, entre autres de Pyrrhus, roi des Épirotes. Car pour ce qui est des auteurs de la moyenne antiquité, c'est fort peu de choses. À peine ont-ils donné une idée de la guerre, tant ils sont abrégés. Il ne nous en reste qu'un au-dessus des autres, qui est Végès. En Osander et l'empereur Léon, tous deux Grecs, n'en approchent pas, et tous les trois ne sont guère plus étendus que nos modernes, mais sont plus savants, bien que la science des armées fût presque tombée et même oubliée de leur temps. Les anciens ouvrages qu'on peut consulter le plus utilement sur l'art de la guerre, outre celui de Végès, sont la Cyropédie ou l'histoire de Cyrus par Xénophon, la retraite d'Édimile et l'histoire de Polybe, les commentaires de César, la tactique d'Élien, etc. Parmi les modernes, on peut lire le parfait capitaine du duc de Rohan, les mémoires de M. de Turenne, insérés à la suite de la vie de ce grand capitaine par M. de Ramsay, ceux de Montecuculi, de M. le marquis de Feuquières, les réflexions militaires de M. le marquis de Santa Cruz, le commentaire sur Polybe par M. le chevalier Folard, l'art de la guerre par M. le maréchal de Puységur, les rêveries ou mémoires sur la guerre par M. le maréchal de Saxe, etc. La science de la guerre est si étendue qu'on ne doit pas être surpris du petit nombre de ceux qui y excellent. Ce n'est pas assez que les généraux sachent ranger les armées en bataille, les faire marcher, camper et combattre. Il faut qu'ils sachent encore préserver leurs armées des maladies qui pourraient les ruiner ou les affaiblir. Il faut aussi savoir encourager le soldat pour le faire obéir volontairement et supprimer patiemment les fatigues extraordinaires auxquelles il peut être exposé. Il faut avoir soin que les vivres ne lui manquent point et que la cavalerie n'ait provoqué qu'une dizaine de fourrages. C'est à quoi l'on doit toujours penser de bonne heure. C'est une épargne à contre-temps, dit Végès, que de commencer à ménager les vivres lorsqu'ils manquent. Cet auteur observe que dans les expéditions difficiles, les anciens distribuaient les vivres par tête, sans avoir égard au grade. Mais on en tenait compte ensuite à ceux à qui on les avait ainsi diminués. Outre ces différentes attentions, il y a encore beaucoup d'autres qu'on peut voir dans l'entretien de Cyrus et de Cambyse, rapporté dans le premier livre de la Cyropédie. Tout cela doit faire sentir combien la science de la guerre demande de travail et d'application. Cependant, Polybe conseille encore à ceux qui aspirent au commandement des armées d'étudier les arts et les sciences qui ont quelque rapport à l'art militaire. Ajoutez, dit cet auteur, des connaissances inutiles au genre de vie que nous professons, uniquement pour faire montre et pour parler. C'est une curiosité que je ne saurais approuver, mais je ne puis non plus goûter que dans les choses nécessaires, on s'en tienne à l'usage et à la pratique, et je conseille fort de remonter plus haut. Il est absurde que ceux qui s'appliquent à la danse et aux instruments souffrent qu'on les instruise de la cadence et de la musique, qu'ils exercent même à la lutte, parce que cet exercice passe pour contribuer à la perfection des deux autres. Et que des gens qui aspirent au commandement des armées trouvent mauvais qu'on leur inspire quelques teintures des autres arts et des autres sciences. De simples artisans seront-ils donc plus appliqués et plus vifs à se surpasser les uns les autres que ceux qui se proposent de briller et de se signaler dans la plus belle et la plus haute des dignités, il n'y a personne de bon sens qui ne reconnaisse combien cela est peu raisonnable. Histoire de Polybe. Après avoir fait sentir la nécessité de l'étude de la guerre, entrons dans quelques détails sur ce qui en regarde l'exécution ou les principales opérations. La guerre ne doit s'entreprendre qu'après beaucoup de réflexion. Il faut avoir tout prévu et tout combiné pour n'être pas surpris par les événements. Il y a deux sortes d'actions militaires, dit Polybe. Les unes se font à découvert et par force, les autres par finesse et par occasion. Celles-ci sont en beaucoup plus grand nombre que les autres. Il ne faut que lire l'histoire pour s'en convaincre. De celles qui se sont faites par occasion, on en trouve beaucoup plus qui ont été manquées que de celles qui ont eu un heureux succès. Il est aisé d'en juger par les événements. On conviendra encore que la plupart des fautes arrivent par l'ignorance ou la négligence des chefs. Ce qui se fait à la guerre, sans but et sans dessein, continue le même auteur, ne mérite pas le nom d'action. Ce sont plutôt des accidents et des hasards dont on ne peut tirer aucune conséquence parce qu'elles ne sont fondées sur aucune raison solide. Avant de commencer la guerre, il est donc important d'avoir des vues et des desseins qu'on se propose de suivre autant que les circonstances pourront le permettre. C'est ce qu'on appelle, suivant M. Le Follard, régler l'état de la guerre. Lorsqu'on veut entreprendre une guerre, il faut commencer par des préparatifs de longue main, non seulement pour avoir le nombre des troupes nécessaires, mais encore de l'argent pour fournir à sa dépense. Henri IV ayant formé le dessein de porter la guerre en Allemagne, M. de Sully sut ralentir son ardeur, jusqu'à ce que le prince eut dans ses coffres de quoi la faire pendant plusieurs années. Il faut des magasins considérables de munitions de guerre et de bouches dans les lieux à portée de ceux que les armées doivent occuper. Dans toute expédition, dit Végès, le point capital est d'avoir toujours des vivres et de ruiner l'ennemi en les lui coupant. Outre cette attention indispensable, il est important de prendre de bonne heure des arrangements avec les puissances auxquelles on pourrait causer de la jalousie pour n'être point traversé dans ses opérations. C'est ce que fit Louis XIV dans la guerre de 1672. Ce prince avait pris toutes les précautions que la pruderie et prudence peut suggérer pour n'être point distrait de la poursuite de son objet. Et si les événements heureux de cette guerre ne l'avaient pas excité à la continuer, au-delà des bornes nécessaires pour humilier cette république dont il avait lieu de se plaindre, il serait parvenu à son but sans obstacle de la part des puissances voisines. Quelque nécessaires que soient les préparatifs dont on vient de parler, ils ne doivent pas faire toute l'application de celui qui veut commencer la guerre. Il doit encore s'appliquer à connaître le génie de son ennemi et le caractère de ses généraux. S'ils sont sages ou téméraires, hardis ou timides, s'ils combattent par principe ou au hasard, avec quelle nation brave ou lâche ils ont eu affaire, comment sont affectées ces troupes, ce que pensent celles de l'ennemi, les deux parties ont le plus de confiance, pressentiment qui élève ou abaisse le cœur. Un général vigilant et sage doit peser dans son conseil ses forces et celles des ennemis, comme s'il avait à juger civilement entre deux parties. S'il se trouve supérieur en plusieurs endroits, il n'en doit pas différer de profiter de son avantage. Mais s'il sent que l'ennemi soit plus fort que lui, il doit éviter une affaire générale et s'en tenir aux ruses, aux surprises et aux embuscades qui ont fait souvent triompher des troupes inférieures en force et en nombre sous de bons généraux. Il faut connaître aussi, le plus exactement qu'il est possible, le pays qui doit être le théâtre de la guerre. Savoir les secours qu'on en pourra tirer pour la subsistance des troupes, pour les fourrages, et les incommodités qui pourront en résulter pour l'ennemi. Enfin, ce n'est pas assez d'assembler une armée. Il faut savoir auparavant où elle agira et comment elle le fera. Lorsqu'on est une fois entré en campagne, il ne doit plus être question de délibérer, mais d'entamer avec vivacité les opérations qu'on s'est proposé d'exécuter. Monsieur de Folard dit quelque part sur ce sujet que l'élan et les engourdis à la guerre auront aussi peu de part à la gloire de ce monde que les tièdes à celle du ciel. Il ne faut pas toujours régler l'état de la guerre sur le nombre et la qualité des forces que l'on veut opposer à l'ennemi, qui sera peut-être plus fort. Il y a certains pays où le plus faible peut paraître et agir contre le plus fort, où la cavalerie a de moindres services que l'infanterie, qui souvent supplée à l'autre par sa valeur. L'habileté d'un général est toujours plus avantageuse que la supériorité du nombre et les avantages d'un pays. Un Turenne règle l'état de la guerre sur la grandeur de ses connaissances, de son courage et de sa hardiesse. Un général qui ne lui ressemble en rien, mal habile, peu entreprenant, quelque supérieur qu'il soit, craint toujours et n'est jamais assez fort. On doit toujours commencer la guerre par quelque action d'éclat et ne point se laisser prévenir par l'ennemi. S'il incline à combattre, dit l'auteur que nous venons de citer, il faut aller au-devant plutôt que de l'attendre. Que s'il évite un engagement, il faut le pousser à quelque prix que ce soit. Car un siège est très difficile lorsqu'on ne fait pas ensuite d'une grande victoire ou d'un avantage considérable. Il faut observer toutes ces choses lorsqu'on règle l'état de la guerre et que l'on établit son plan avant de la commencer. Car lorsqu'on a médité à loisir sur ce qu'on est résolu de faire et sur ce que l'ennemi peut raisonnablement opposer, on vient à bout de ses desseins. Il serait aisé d'ajouter beaucoup d'autres réflexions sur cette matière. Mais comme il ne s'agit point ici d'un traité sur la guerre, mais d'expliquer ce qu'elle a de plus général, nous donnerons seulement un précis de la guerre offensive et de la guerre défensive. On dira aussi un mot de la guerre de secours, de la guerre offensive. Dans la guerre offensive, comme on se propose d'attaquer l'ennemi, il faut être assez exactement informé de ses forces pour être assuré qu'on en aura de plus grandes ou que l'on sera en état de faire des conquêtes avant qu'il ait le temps de rassembler son armée pour s'y opposer. Si le pays que l'on veut attaquer, dit M. de Feuquières, est bordé de places fortes, il faut attaquer le quartier qui donne une entrée libre et qui porte avec plus de facilité vers la capitale, à qui il faut, autant qu'il est possible, au commencement de la guerre, faire voir l'armée afin d'y jeter la terreur et tâcher par là d'obliger l'ennemi de dégarnir quelques-unes des places de la frontière pour assurer le cœur du pays. Il faut ensuite tomber sur les places dégarnies pour ouvrir davantage le pays attaqué, faire apporter dans ces places, après leur prise, tous les dépôts qui étaient dans les vôtres et faire ainsi la guerre avec plus de commodité. Lorsqu'on aura pénétré le plus savant qu'on aura pu faire, il faut faire camper l'armée en lieu sain et commode pour les fourrages et même en lieu avantageux par son assiette, afin de pouvoir de là faire des détachements considérables pour réduire par la terreur des armes les extrémités du pays où l'on ne pourrait pas, avec sûreté et commodité pour les vivres, se porter avec l'armée entière. C'est particulièrement dans ces commencements qu'il faut user de diligence pour l'exécution des différents projets qu'on a formés. On vit d'abord aux dépens de l'ennemi. On ruine le pays par où il peut s'assembler. Et l'on jette la terreur parmi les troupes et les peuples. Une bataille, dit l'auteur que nous venons de citer, donnée à propos dans un commencement de guerre, en décide presque toujours le succès. Ainsi, il ne faut pas hésiter à la donner, si l'ennemi, par quelques mouvements pour mettre ses troupes ensemble, se met à portée de risquer un événement. Quelque incertain que soit le succès des batailles, il paraît en effet que loin de les éviter au commencement d'une guerre, il faut chercher l'occasion d'en donner. C'est un paradoxe, dit Montecuculli, que d'espérer de vaincre sans combattre. Le but de celui qui fait la guerre est de pouvoir combattre en campagne pour gagner une victoire. Et quiconque n'a pas dessein d'en venir là est éloigné de la fin naturelle de la guerre. On a bien vu, continue ce grand capitaine, des armées faibles en défaire de fortes en campagne. Mais on n'a jamais vu une armée qui se renferme dans un camp fortifié pour éviter le combat, défaire celle qui l'attaque. C'est assez à l'agresseur que de plusieurs attaques, une seule lui réussisse pour le rendre victorieux. Le gain d'une bataille peut avoir les suites les plus heureuses lorsque le général a toute la capacité nécessaire pour en profiter. Mais sa perte en a ordinairement de si fâcheuses qu'on ne doit la risquer qu'avec beaucoup de circonspection. Montecuculli, qui conseille d'en chercher l'occasion au commencement de la guerre, observe néanmoins que, dans une matière si importante, on ne pêche pas deux fois, et que quand le mal est arrivé, il ne sert à rien de se repentir et de rejeter sa faute sur celui-ci ou sur celui-là, qu'il faut beaucoup de fermeté et de présence d'esprit pour pourvoir à tout, et ne pas préférer les murmures de la populace au salut public, qu'il faut chercher à faire quelques coups d'importance sans tout risquer, parce qu'il n'y eut jamais de prudence à risquer beaucoup pour gagner peu. Monsieur le maréchal de Saxe n'était point pour les batailles, surtout, dit-il, au commencement d'une guerre. Il prétend, dans ses mémoires, qu'un habile général peut la faire toute sa vie sans s'y voir obligé. « Rien, dit cet illustre général, ne réduit tant l'ennemi que cette méthode d'éviter les batailles, et n'avance plus les affaires. Il faut, ajoute-t-il, donner de fréquents combats et fondre, pour ainsi dire, l'ennemi petit à petit. Après quoi, il est obligé de se cacher. Cette méthode est sans doute plus sûre et plus prudente que la précédente. Mais, outre qu'elle demande beaucoup de science et de génie dans le général, il faut observer que, si en agissant de cette manière on se commet moins, on réduit aussi l'ennemi moins promptement. La guerre est alors plus longue et moins décisive. On se ruine en détail sans rien faire de grand. C'est pourquoi cette conduite excellente dans la guerre défensive ne l'est peut-être pas autant dans l'offensive. S'imaginer faire des conquêtes sans combattre, c'est, dit Montecuculli, un projet chimérique. Les guerres des Romains, qui étaient courtes et grosses, sont, dit-il, bonnes à imiter, mais on ne les peut pas faire sans bataille. M. de Puységur pensait sur les batailles à peu près comme M. le maréchal de Saxe. Selon cet auteur, elles sont la ressource des généraux médiocres qui donnent tout au hasard, au lieu que ceux qui sont savants dans la guerre cherchent par préférence les actions où ils peuvent soutenir les troupes par leur savoir et leur habileté. Il est certain que si l'on peut, sans donner de bataille, exécuter les différentes choses que l'on s'est proposées, il y aurait une imprudence inexcusable à vouloir en risquer l'événement. Mais il y a plusieurs circonstances où elles sont inévitables. Si par exemple l'ennemi que vous avez en tête attend des secours considérables qui lui donnent la supériorité sur vous, si les affaires du prince exigent qu'il tire de forts détachements de votre armée pour aller au secours d'un corps d'armée dans une province éloignée, si les subsistances manquent et qu'il ne soit pas possible de s'en procurer sans chasser l'ennemi des lieux qu'il occupe. Dans ces circonstances et dans beaucoup d'autres qui arrivent à la guerre, les batailles sont absolument nécessaires. Monsieur de Turenne, qui savait les éviter quand il le fallait, en a donné plusieurs dans des cas de cette espèce. Et c'est par cette conduite qu'avec des armées inférieures, il a toujours su se conserver la supériorité sur l'ennemi. Ce qu'il y a d'essentiel à observer dans les batailles, c'est de savoir se soutenir et ne point se décourager pour avoir été poussé, même battu, dans quelques endroits de sa ligne. C'est être habile, je le veux, dit Polybe, que de faire en sorte qu'après avoir bien commencé une action, que la fin ne démente pas le commencement. Mais la gloire est bien plus grande lorsqu'après avoir eu du pire au premier choc, loin d'en être ébranlé et de perdre la tête, on réfléchit sur les fautes que les bons succès font commettre à son ennemi et qu'on les tourne à son avantage. Il est assez ordinaire de voir des gens à qui tout semble prospérer au commencement d'un combat tourner le dos peu de temps après et être vaincus, et d'autres au contraire, qui après des commencements très désavantageux, savent par leur bonne conduite changer la face des choses et remporter la victoire lorsqu'on s'y attendait le moins. Polybe en donne pour exemple la bataille de Mantinée, gagnée par Philopemen sur Macaïdas, tyran de Sparte. Au commencement de cette bataille, l'armée de Philopemen fut poussée, même mise en partie en déroute. Mais ce grand capitaine ne s'épouvanta pas et ne perdit pas l'espérance de faire changer la fortune. Il sut remédier au désordre de son armée et trouver ensuite le moyen de remporter une victoire complète dans laquelle il tua lui-même Macanidas. Nous avons un exemple à peu près de même espèce rapporté dans les mémoires de Monsieur de Turenne à la bataille de Nördlingen. Dans cette bataille, l'aile droite de l'armée de France fut entièrement mise en déroute, le centre battu et l'aile gauche un peu poussée. Malgré cela, Monsieur le Prince soutint le combat. Monsieur de Turenne battit l'aile droite des ennemis, et la nuit venant incontinent, les deux ailes qui avaient battu ce qui était devenant elles demeurèrent en bataille l'une devant l'autre, et à 1 heure après minuit, l'armée ennemie commença à se retirer, etc. Un des principaux avantages de la guerre offensive, c'est de faire subsister l'armée aux dépens de l'ennemi. Par cette raison, cette guerre peut être moins dispendieuse que la guerre défensive, où l'on est obligé de vivre sur son propre terrain. L'empereur Léopoldinas plaignant, dit Monsieur de Santa Cruz, de ce qu'il ne savait où prendre des fonds pour payer ses armées, Wallenstein, son général, lui répondit que le remède qu'il y trouvait était de lever une fois de plus de troupes. L'empereur lui ayant répliqué comment il pourrait entretenir 100 000 hommes puisqu'il n'avait pas le moyen d'en faire subsister 50 000, Wallenstein le satisfit en lui représentant que 50 000 hommes tiraient leur subsistance du pays ami et que 100 000 le tiraient du pays ennemi. Le prince d'Orange, suivant ce procès verbalement, il est toujours bon d'attacher les chevaux aux arbres des ennemis, dit que celui qui fait une guerre offensive peut, dans un malheur, avoir recours à son propre pays, parce que, n'ayant point souffert de la guerre, on y trouvera abondamment tout ce qui est nécessaire. Au lieu que celui qui la soutient sur ses états ne saurait en plusieurs jours faire les préparatifs convenables pour entrer dans le pays ennemi. Enfin, en se tenant sur la défensive, on ne peut que perdre ou tout au plus conserver ce que l'on a. Et en attaquant, on peut gagner de la guerre défensive. La guerre défensive est beaucoup plus difficile et plus savante que la précédente. Elle demande plus d'adresse, plus de ressources dans l'esprit et beaucoup plus d'attention dans la conduite. Dans la guerre offensive, on compte pour rien ce qu'on manque de faire, parce que les yeux attentifs à ce qui se fait et remplis d'une action éclatante ne se tournent point ailleurs et n'envisagent point ce qu'on pouvait faire. Mais dans la guerre défensive, la moindre faute est mortelle et les disgrâces sont encore exagérées par la crainte qui est le vrai microscope des maux. Et on les attribue toutes à un seul homme. On ne regarde que le mal qui arrive et non ce qui pouvait arriver de pis si on l'avait empêché. Ce qui, en bonne partie, devrait être compté pour un bien. Monsieur de Feuquières observe qu'il est bien difficile de prescrire des maximes générales dans cette espèce de guerre, parce qu'elle est toute, dit-il, dans la prudence et l'esprit de prévoyance de celui qui l'a conduit. On peut dire seulement qu'elle a été tout à fait imprévue, ou qu'elle n'a pas été prévue assez tôt, ou que la perte d'une bataille ou de quelque place considérable l'a rendue telle, quoiqu'elle eût un autre commencement. Au premier cas, le peu de troupes qu'on a sur plein pied doit être ménagé. L'infanterie jetée selon la quantité des places qu'on a à garder, dans celles que l'on peut croire le plus indispensablement attaquées, abandonnant ainsi à l'ennemi celles qui, dans la suite de la guerre, pourraient être plus facilement conquises ou qu'il pourra le plus difficilement conserver. La cavalerie doit être mise en campagne, mais en état d'avoir une retraite sûre. Elle doit incommoder les fourrages, les convois de l'ennemi, empêcher que ses parties ne s'écartent trop de son armée et ne jettent trop facilement la terreur dans le dedans du pays. Le plat pays ne doit point être ménagé. Il faut en retirer dans les meilleures places tout ce que l'on peut en ôter et consumer même par le feu tous les grains et fourrages qu'on ne peut mettre en lieu sûr afin de diminuer par là la subsistance aisée de l'armée ennemie. Les bestiaux doivent être aussi renvoyés dans les lieux les plus éloignés de l'ennemi, et autant qu'il se peut, couverts de grandes rivières où ils trouveront plus de sûreté et une subsistance plus aisée. Quelque inconvénient qu'il paraisse y avoir à ruiner son pays, c'est pourtant, dans des cas pressants, une opération indispensable. Car il vaut mieux, dit un grand capitaine, se conserver un pays ruiné que de le conserver pour son ennemi. C'est une maxime que nul bien public ne peut être sans quelque préjudice au particulier. Aussi un prince ne se peut démêler d'une périlleuse entreprise s'il veut complaire à tout. Et les plus grandes et ordinaires fautes que nous faisons en matière d'État et de guerre proviennent de se laisser emporter à cette complaisance dont le repentir nous vient quand on n'y peut plus remédier. Lorsque la guerre n'a pas été absolument imprévue, qu'on a dû s'y attendre par les dispositions de l'ennemi, par l'augmentation de ses troupes, les amas de vivres, de fourrage dans ses places frontières, alors on peut prendre des précautions pour lui résister. Pour cet effet, on fait promptement de nouvelles levées de troupes. On réunit ensemble, dans les lieux les plus probables à fermer l'entrée du pays, celles qu'on a déjà sur pied, et l'on forme des magasins de munitions de toute espèce dans les lieux les moins exposés. On cherche aussi à tirer du secours de ses alliés, soit par des diversions ou par des corps de troupes. Enfin, l'on doit s'appliquer à faire en sorte d'être point surpris, à bien démêler les desseins de l'ennemi et à employer tous les expédients que la connaissance de la guerre et du pays peuvent suggérer pour lui résister. Il arrive souvent qu'un prince qui fait la guerre à la fois de plusieurs côtés n'est pas en état de la faire offensivement partout. Alors il prend le parti de la défensive du côté où il se croit le plus en sûreté. Mais cette défensive doit être conduite avec tant d'art et de prudence que l'ennemi ne puisse s'en douter. Le projet de cette espèce de guerre, dit M. de Feuquières, mérite autant de réflexion et de capacité qu'aucune autre. Elle ne doit jamais se faire que du côté où l'on est sûr de réduire l'ennemi à passer une rivière difficile, ou un pays serré et coupé de défilés. Et lorsqu'on a sur cette rivière une place forte bien munie, que l'on saura être un objet indispensable, par l'attaque de laquelle on pourra présumer qu'il perdra un temps assez considérable pour avoir celui de la secourir ou de le combattre. Quoique la guerre défensive soit plus difficile à soutenir que l'offensive, M. le chevalier Follard prétend que les généraux les plus malhabiles sont ceux qui la proposent. Au lieu que les plus consommés dans la science des armes cherchent à l'éviter, la raison est sans doute qu'il paraît plus aisé de s'opposer au dessein de l'ennemi que d'en former soi-même. Mais avec un peu d'attention, on s'aperçoit bientôt que l'art de réduire un ennemi à l'absurde et de deviner tous ses projets demande plus de capacité et d'intelligence que pour l'attaquer à force ouverte et le faire craindre pour son pays. Si l'ennemi peut pénétrer qu'on a dessein de se tenir sur la défensive à son égard, il doit devenir plus entreprenant. Ajoutez à cela, dit le savant commentateur de Polybe, qu'une défensive ruine l'État si elle dure longtemps, car outre qu'elle n'est jamais sans quelque perte ou sans la ruine de notre frontière que nos armées mangent, c'est que, comme on craint également que l'ennemi coule sur toute sa ligne de communication, pour couper ou pénétrer la nôtre, pour faire quelque conquête, on se voit obligé de munir extraordinairement toutes les places de cette frontière, parce qu'elles se trouvent également menacées. Et quel est le prince assez puissant, continue ce même auteur, pour fournir toutes ces forteresses de vivres et de munitions de guerre pour soutenir un long siège. Lorsque, par les événements d'une guerre malheureuse, on est dans le cas de craindre de se commettre avec l'ennemi, il faut éviter les actions générales en pleine et chercher, comme le faisait Fabius Maximus, à harceler l'ennemi, lui couper ses vivres et ses fourrages, s'appliquer à ruiner son armée en détail, en se tenant toujours à portée et de profiter de ses fautes, en occupant des postes sûrs et avantageux, où sa supériorité ne soit point à craindre. En un mot, fuir, comme le dit M. Follard, toute occasion de combattre où la supériorité du nombre peut beaucoup, et chercher celle où le pays militera pour nous. Mais il n'appartient pas, dit-il, aux généraux médiocres de faire la guerre de cette sorte. Et lorsqu'un prince est assez heureux pour avoir des généraux du premier ordre à son service, il n'a garde de les brider. Contre ceci, Dieu n'est pas toujours pour les gros bataillons. Monsieur de Turenne a fait voir mille fois que cette maxime était fausse. Elle est en effet à l'égard des grands capitaines et des officiers expérimentés. Lorsqu'on veut empêcher l'ennemi de pénétrer dans un pays fermé de montagnes et de défilés, il est bien difficile de s'assurer de les garder tous également. Car comme l'ennemi peut donner de la jalousie de plusieurs côtés, il vous oblige par là de partager vos forces. Ce qui fait qu'on ne se trouve pas en état de résister dans le lieu où il fait ses plus grands efforts. Dans les cas de cette espèce, et lorsqu'on est à peu près égal en force à l'ennemi, il faudrait s'attacher à le mettre lui-même sur la défensive. C'est le moyen de déranger ses projets et de l'occuper de la conservation de son pays. Si l'on peut réussir, on éloigne la guerre de ses frontières. Mais si l'entreprise paraît trop difficile, il faut faire en sorte que l'ennemi ne trouve aucune subsistance dans les lieux où il aura pénétré, qu'il s'y trouve gêné et à l'étroit par un bon corps d'armée qui occupe un camp sûr et avantageux, et qui ne lui permette pas de pouvoir aller en avant. C'est un principe certain que le partage des forces les diminue, et qu'en voulant se défendre de tous côtés, on se trouve trop faible partout. C'est pourquoi le parti le plus sûr, dans les occasions où l'on craint pour plusieurs endroits à la fois, est de réunir ses forces ensemble, de manière que, s'il est nécessaire de combattre, on le fasse avec tout l'effort dont on est capable. C'est par cette raison qu'un général habile, qui a des lignes d'une grande étendue à garder, trouve plus avantageux d'aller au-devant de l'ennemi pour le combattre avec toutes ses forces que de se voir forcé dans des retranchements.